bien, Adrien nous a parlé de Spurgeon, il nous a parlé d'Apollos, il nous a parlé de Paul, tous des gens qui étaient des savants, qui étaient des gens qui étaient conçus et préparés pour annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, on est seulement entre nous. Je ne suis ni Paul, ni Apollos, ni Spurgeon, mais on va essayer de voir ensemble quand même ce que Dieu peut nous dire au travers de sa parole. Je n'ai pas confiance dans les mots que je pourrais aligner, mais on peut avoir confiance dans la parole du Seigneur qui est capable de transcender les situations, qui est capable de même donner la vie. C'est une parole de vie que le Seigneur nous propose aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de dimanche passé, du thème de dimanche passé, d'un verset que François nous a fait ressortir. Ce verset, c'est « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » C'est un peu dans ce contexte-là, dans cette atmosphère-là, que j'aimerais continuer, mais j'avais même préparé ça avant la semaine passée. Mais ça reste vraiment dans cette idée-là. Ce que Dieu nous propose, ce n'est pas accessible par l'intelligence humaine, ce n'est pas compréhensible par nos moyens humains, et on peut les saisir, les obtenir par la foi. Alors pour ça, j'aimerais partir depuis ce verset de l'Exode 33. C'est, pour le situer un peu dans le contexte, c'est le moment où Moïse est monté sur la montagne, il a reçu les tables de la loi, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Et là, Moïse reçoit les tables de la loi et en redescendant, il porte ses deux tables. Et puis il entend le peuple qui fait beaucoup de bruit, qui chante, qui s'amuse, et il s'est déjà corrompu. La loi n'est pas encore arrivée à être entre les mains du peuple, qu'elle est déjà rompue, qu'elle est déjà brisée. Moïse jette ses tables qui se cassent. La loi n'est pas accessible, n'est pas à la hauteur. L'homme n'est pas à la hauteur de la loi que Dieu veut nous proposer. Alors Dieu nomme Moïse pour être vraiment le conducteur du peuple et dit « Occupe-toi de ce peuple, moi je me tiens à l'extérieur parce que je pourrais les détruire tellement ils sont rebelles. » Et là Moïse négocie avec Dieu en quelque sorte, et pour s'assurer de la présence de Dieu, pour avoir le courage de continuer à s'occuper de cet immense peuple qui peut être rebelle, Moïse a une demande à faire à Dieu, et c'est ici ce qu'on lit ici. Donc Dieu lui dit je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et voilà, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Moïse demande à voir la gloire de Dieu parce qu'il veut donc obtenir l'assurance que Dieu sera présent à ses côtés, et puis il désire faire l'expérience de connaître vraiment cette personne. La possibilité accordée à Moïse de le voir par derrière signifie que nous ne pouvons le voir que là où il a déjà passé. C'est un commentaire que j'ai trouvé là. On peut le voir, on peut comprendre Dieu de travers de ses actes, à travers de ses œuvres, à travers de sa création, et ça principalement dans l'Ancien Testament, et comme on va le voir dans le Nouveau Testament, on peut le découvrir à travers l'œuvre de Christ, à travers sa parole. Je ne sais pas comment vous imaginez la gloire de Dieu. Personnellement, quand je pense à la gloire de Dieu, je vois quelque chose de fantastique, d'un peu terrifiant, je ne sais pas, une espèce de feu d'artifice dans lequel on se trouve pris au milieu avec des lumières et puis des éclats et puis des bruits assez impressionnants qui font que le cœur commence de taper et puis qu'on est mal à l'aise. Et j'étais très étonné par ce verset ici de lire que finalement, Moïse demande à voir la gloire de Dieu, puis Dieu lui dit, je te ferai voir ma bonté. Donc la bonté, la gloire de Dieu et la bonté, c'est en fait une seule et même chose pour Dieu. Dieu, sa gloire, c'est d'exprimer, de manifester sa bonté. C'est totalement différent de ce concept de voir un Dieu tout-puissant, terrifiant. Ce qui glorifie Dieu, c'est sa bonté. Quand on voit la bonté de Dieu, eh bien, on voit sa gloire. Et je suis posé la question, mais bon, ça joue de mettre tout ça ensemble, de mettre ces deux éléments comme un seul élément, c'est vraiment... J'étais assez impressionné. Alors, en cherchant dans la Bible, si tu nous passes le verset... Voilà. Eh bien, on trouve effectivement, notamment dans l'Ancien Testament, que la gloire et puis la bonté de Dieu, ça peut être considéré comme une seule et même chose. Donc, ici dans Ésaïe, c'est le moment où Ésaïe voit la gloire de Dieu. Et il y a ces chérubins qui crient l'un à l'autre, « Saint, 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 l'Éternel ». L'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc la gloire de Dieu est sur la terre. Et puis dans le psaume 35-33, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Donc la même terre, elle est remplie par la gloire et par la bonté de Dieu, ce qui nous montre bien que c'est la même chose. Et c'est pas seulement une couche de vernis... juste à la surface, on voit dans le psaume 19 que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas juste un vernis, il y a vraiment une couche. On est compris là-dedans, on est en plein milieu dans ce que Dieu veut nous montrer pour se glorifier. Dans l'Ancien Testament, principalement, on voit la gloire de Dieu. On voit sa bonté dans ce qu'il a créé, dans ses œuvres, donc dans la création. Et ça ressort bien, notamment dans le cas de Job. Job, on connaît son histoire, il est dans les malheurs, il perd tout. Et puis finalement, il a des consolateurs, des amis qui viennent pour essayer de le consoler. Et ils arrivent seulement à l'accuser encore un peu plus. Et on voit que si on veut s'approcher de Dieu, on ne peut pas l'approcher par nos habitudes, nos traditions. Notamment, le premier de ces consolateurs, Eliphaz, il s'approche et puis il essaye de trouver pourquoi Job est comme ça, atteint par le malheur. Et il se base sur ses observations. Il va dire... selon ce que j'ai vu. Et puis il peut dire, alors ça, si tu es dans le problème, c'est qu'il y a une cause, et puis il faut chercher la cause pour trouver, pour corriger les effets. Puis Job se justifie, il explique qu'il a une bonne conscience, d'ailleurs Dieu l'approuve de toute façon. Le suivant, Bildad, il vient, puis lui, il s'appuie pas sur ses observations, mais... sur la tradition, regarde, interroge la génération précédente. Et si on s'appuie sur les anciens, sur ce qu'ils ont fait, sur comment ça s'est déjà passé d'autrefois, ça ne suffit pas pour s'approcher de Dieu. Dieu, il peut avoir d'autres moyens pour manifester sa gloire. Le troisième, il va se fier à son intuition. Des pensées s'élèvent en moi quand je réfléchis à ce qui t'arrive. Et tout ça, ça fait qu'enfoncer Job un peu plus dans son incompréhension, dans sa révolte. Mais lorsque Dieu apparaît au travers du quatrième consolateur. Et donc se met à parler lui-même à Job. Il ne lui dit pas, je t'ai dit, et puis tu dois avoir confiance, et puis tu dois, et puis il faut. Mais il lui parle de sa création. Il lui parle de l'eau, qui peut être de la glace, qui peut être de la vapeur. Il lui parle de certains animaux, il lui dépeint certains animaux. Et toute cette description-là réveille en Job cette adoration qui va lui faire lui permettre de voir la gloire de Dieu, de se détourner de son problème à lui pour rendre gloire à Dieu et obtenir un résultat qu'on pourra avoir un peu plus tard. On a le même phénomène avec Abraham. Abraham, il a des promesses, et à un moment donné, il est âgé, Sarah est stérile, les promesses ne sont pas réalisées, il fait le point, et puis il dit, c'est rap et ça ne va pas se passer. Et Dieu, plutôt que lui dire, tu dois croire aux mes promesses, tu dois me faire confiance, il dit, compte les étoiles, regarde la grandeur de Dieu, regarde le témoignage de sa puissance, de ses merveilles. Et là, Abraham est subjugué, et puis il va dire cette merveilleuse parole, il a cru Dieu, et Dieu lui imputa sa foi à justice. C'est des exemples de l'Ancien Testament qui nous montrent que la grandeur de Dieu, que sa magnificence, que sa gloire, elle est comprise dans ce qu'il a créé, dans sa bonté. Dans le verset de Romains, là, on le voit aussi dans le Nouveau Testament maintenant. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Simplement, le fait de vivre sur cette terre, de voir le soleil se lever, de voir les paysages magnifiques, de pouvoir respirer un air qui nous permet de vivre, nous rend inexcusables devant Dieu. Et pourtant, combien l'homme se trouve des excuses, des justifications et des explications. Mais devant Dieu, ça ne va pas marcher. Donc, dans l'Ancien Testament, on va croire Dieu à cause de ce qu'il fait, à cause de ce qu'on voit. Bon, il y a aussi des prophètes qui ont dit l'Éternel, qui ont annoncé des choses qui n'étaient pas encore visibles, mais là, c'est sur la base de ce qui est de ce que Dieu a déjà accompli que les anciens de l'Ancien Testament pouvaient s'appuyer sur faire confiance et voir quelque chose de la gloire de Dieu. Maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, on a en quelque sorte l'apogée de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui vient donner sa vie pour nous, qui meurt sur la croix, c'est l'expression, je dirais, ultime de la gloire de Dieu, mais aussi de sa bonté, puisque la gloire et la bonté de Dieu font un tout. Donc, dans Hébreux, on voit qu'après avoir autrefois plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé aux hommes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans l'Ancien Testament, on pouvait s'appuyer sur... mais ils étaient contraints de s'appuyer sur les choses visibles, sur les choses qui ont déjà existé. Et nous, dans le Nouveau Testament, on est appelés à considérer, à l'aimer, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une gloire ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1. Et on retrouve cet aspect de l'amour et de la gloire dans le Nouveau Testament aussi manifesté. Par exemple, voilà. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà l'apogée, le maximum de la bonté qui est en fait la gloire, ce dont Dieu se glorifie. Et dans l'autre verset, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dans cette œuvre de Golgotha, dans cette œuvre complète de rédemption, on retrouve l'amour et on trouve la gloire du Père. D'autres versets encore qui vont dans, tout à fait dans le même sens. Romains 5, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été ressuscités avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si la mort de Jésus nous permet d'être pardonnés, c'est une chose qui est basiquement négative, la mort. Alors maintenant que Jésus est vivant, qu'est-ce que ça va produire pour nous? Voilà où on peut croire et s'attendre à la gloire de Dieu. Maintenant, un autre aspect qui, dans ce verset de tout départ de l'Exode, qui m'a interpellé, puis c'est là que je trouve ça très intéressant et très important, c'est que Dieu va lui dire, si je reprends le verset 19, il va lui dire, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. À cette époque-là, voir Dieu dans un état sans être régénéré, c'était la mort assurée. Mais ça reste vrai encore aujourd'hui. Quand on voit la bonté de Dieu, qu'on voit son amour, qu'on réalise ce qu'il est, eh bien notre homme naturel ne peut pas vivre. Nos bonnes idées, nos acquis, nos bons raisonnements, ce qu'on peut faire de bien, ce qu'on peut essayer de présenter à Dieu par nous-mêmes, ça doit mourir, parce que devant la gloire de Dieu, devant cette immensité de cet amour que Dieu nous a témoigné, qu'il a envers nous, on ne peut pas présenter quelque chose, on ne peut pas essayer d'être meilleur, on ne peut pas penser que demain ça va mieux y arriver qu'aujourd'hui. On est mort, notre vie humaine, elle n'a qu'une seule place, c'est d'être à la croix et d'être crucifié avec Christ. Quand on voit, merci, les richesses de sa bonté, puis de sa patience envers, et sa longanimité, sa patience envers nous, on est obligé de reconnaître que Dieu est Dieu, et puis ça doit nous pousser à simplement renoncer à nous-mêmes, ça doit nous pousser à la repentance, ça nous amène à notre fin, à notre mort. On ne peut pas voir la gloire de Dieu et puis vivre notre vie humaine en même temps. C'est l'un ou l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas douloureux de mourir devant cet amour. C'est spontané. Spontanément, cet amour nous fait disparaître. Et puis on ne peut plus venir avec des prétentions et dire « fais-moi plus que ceci ou cela ». Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ça, c'est les paroles de Job qu'on a vu tout à l'heure. Quand il découvre la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu dans sa création, il arrive à cette situation ici où il peut dire « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre ». Et même une traduction que j'aime bien, c'est Darby qui dit « C'est pourquoi j'ai horreur de moi et je me repens sur la poussière et sur la cendre ». Il n'y a plus de place pour devant ce que Dieu a fait. Devant son amour, devant ce qui est sa gloire, il n'y a plus aucune place pour notre personnalité. On ne peut plus qu'être dégoûté de soi-même. Et c'est là que Dieu voulait amener Job à cette situation-là. Et c'est là, dans cette situation, où Job est mort à lui-même, qu'il a pu être rétabli dans sa... recevoir de nouveau la vie et recevoir ses biens. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Si ce n'est pas sans but qu'on peut renoncer à soi-même, qu'on peut être dégoûté de nos propres capacités, cette attitude nous fait bénéficier, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, à cause de la bonté de Dieu, à cause de ce que Dieu a accompli. Mais le but, c'est que cette vie de Christ puisse se manifester en nous, qu'elle puisse croître, qu'elle ne soit pas gênée par toujours notre moi, nos prétentions, nos espoirs de pouvoir s'améliorer. Juste ça, mourir pour que Christ puisse vivre. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Psaume 51. C'est ce psaume où David se repent de son péché qui est venu en avant. Il réalise, comme Job, j'ai horreur de moi, et il est brisé. Et ici, il dit, les os que tu as brisés se réjouiront. On a besoin d'être brisés dans nos personnalités, dans nos prétentions, dans ce qu'on pense pouvoir faire et être. Et une fois que ces os sont brisés, quand le Seigneur nous annonce l'allégresse et la joie, qui est sa gloire, qui nous a acquise, ces os vont vraiment, ce qui a été brisé en nous va même va pouvoir se réjouir. Et encore d'autres versets. Dans Romains, ainsi vous-même, c'est ce que Paul Romain il nous invite à faire, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et voilà l'explication, le conseil que Paul nous donne. Pas d'espoir en soi-même, mais tout notre espoir en Dieu. Et aux Galates, il écrit « Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Cette croix de Christ, elle a deux faces. D'une part, le monde est crucifié quand le monde voudrait se rendre attrayant pour moi, je constate qu'il est mort. Et quand le monde voudrait me tenter, je peux aussi lui dire, mais je suis mort. La croix fait vraiment la séparation entre nous et le monde et Satan et tout ce qui voudrait nous récupérer. Maintenant, c'est une chose qui est faite, c'est une chose qu'on peut acquérir et dans laquelle on peut croire, obtenir par la foi. Puis on a toujours tendance à vouloir dire, ah oui, mais alors je veux faire quelque chose pour le Seigneur, je veux l'aider, je veux lui prouver que je crois en lui. Et puis on a tendance à vouloir faire des choses, ce qui est en fait une erreur fondamentale, parce que Dieu, sa gloire, c'est d'avoir de tout faire lui. Il n'attend rien de notre part, sauf qu'on accepte notre capacité, qu'on ait une fois arrivé à ce point où on a horreur de nous. J'ai recherché, je pensais à une expérience que je crois que c'est Watchman Nee qui rappelle cette expérience, puis j'ai pas trouvé exactement, mais j'ai relevé ce passage-là qui explique que Watchman Nee donne dans un de ses livres, qui résume, va bien dans cette pensée. Il écrit, si seulement, on dit, hein, si seulement j'étais plus fort, disons-nous, je pourrais surmonter mes violents accès de colère et mes difficultés. Et nous demandons au Seigneur de nous fortifier afin que nous puissions contrôler nos réactions. Mais cela est une grave erreur. Ce n'est pas le christianisme. Les moyens par lesquels Dieu nous délivre du péché ne consistent pas à nous rendre de plus en plus forts, mais à nous rendre de plus en plus faibles. C'est sûrement une manière plutôt singulière de nous amener à la victoire, direz-vous. Mais c'est le chemin de Dieu. Dieu nous affranchit du pouvoir du péché, non pas en fortifiant notre vieil homme, mais en le crucifiant. Non pas en l'aidant à arriver à quelque chose, mais en le mettant hors d'action. Reconnaissons être totalement impuissants pour arriver au résultat désiré, mais aussi que Dieu, en nous mettant de côté, a tout accompli. Une telle révélation met fin à tout effort humain et personnel. Le but de Dieu en nous faisant participer à sa sainteté, nous faisant participer à sa gloire, c'est pas de faire de nous des héros, c'est pas de faire de nous des gens qui ont réussi, qui peuvent prier et puis qui obtiennent et puis qui ont toutes sortes de... Oui, Dieu exauce les prières, c'est pas un problème, c'est pas là le problème. Mais le fond principal, la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, on le trouve dans Éphésiens, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui avons espéré en Christ. Le but de Dieu, c'est que nous, au travers de nos situations, peut-être même désagréables, souvent pénibles, eh bien, qu'il en ressorte de la gloire pour Dieu. C'est ça que Dieu désire. Et puis, accessoirement, ben, il nous sort de nos situations, il nous aide aussi à... il nous garde. Mais le point principal, ne l'oublions pas, c'est que Dieu cherche à manifester sa gloire au travers de nous et par notre moyen. Pas parce qu'on réussit bien, mais parce que lui peut nous approvisionner, on se laisse faire par lui, laisse enrichir par lui, pour finalement... que ceux qui nous regardent, ceux qui vivent à côté de nous doivent dire, il est soutenu par Dieu, c'est pas possible qu'il s'en sorte par ses propres moyens. Lui, on le connaît, on sait ce qu'il a passé, on sait ce qu'il a fait, puis quand on le voit maintenant, Dieu doit exister. Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu sera glorifié et célébré. Maintenant, pour terminer, voilà, on a parlé de Spurgeon. J'ai ici un commentaire d'un des collaborateurs de Spurgeon, dénommé Oswald Chambers, qui a écrit des commentaires pour chaque jour de l'année. D'ailleurs, on le trouve sur Internet gratuitement, on peut l'avoir sur ce téléphone. Et il parlait le texte pour le 28 novembre, c'était « Gratuitement justifié par sa grâce ». J'ai trouvé que ça correspondait tellement bien à ce que j'essaye d'exprimer que ça valait la peine de le lire avec ces mots. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu éveille fréquemment une ardente aspiration, mais en même temps une profonde répulsion parce que le message qu'elle nous apporte nous irrite. L'homme est fier de pouvoir donner tant et plus, mais recevoir comme un mendiant est tout autre chose. Je donnerai ma vie comme martyr s'il le faut, je me dévouerai tout entier, je ferai n'importe quoi, mais ne m'humiliez pas en me mettant sur le même pied que le plus grand des pécheurs qui n'a qu'à accepter le don du salut par Jésus-Christ. Il faut que nous comprenions que nous ne pouvons rien mériter, obtenir de Dieu par nos efforts. Il faut le recevoir comme un cadeau gratuit ou bien nous en passer. Le plus grand bienfait spirituel est de reconnaître notre dénuement jusqu'à ce que nous en arrivions là. Le Seigneur ne peut rien pour nous. Il ne peut intervenir tant que nous croyons pouvoir nous suffire à nous-mêmes. C'est par la porte du dénuement que nous entrons dans son royaume. tant que nous croyons être riches, tant que nous possédons quelque capital d'orgueil, quelque indépendance, Dieu ne peut rien pour nous. C'est seulement lorsque nous avons faim de vie spirituelle que nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous communique comme un don la nature divine. Il fait vivre en nous la vie puissante de Jésus qui pénètre en notre âme, nous élève jusqu'à sa hauteur dans le royaume de Jésus. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, on peut juste lui dire merci. On peut juste croire comme Abraham qui a cru en celui qui ressuscite les morts et puis qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand Dieu dit, la chose doit être, et puis on peut simplement avoir confiance en lui et pas confiance en nous. Je vous propose qu'on termine par la prière. Père Céleste, nous te louons, nous te remercions pour tes plans d'amour, pour ton plan glorieux qui sert à la louange de ta gloire, à la louange de ta bonté que tu nous as donnée dans ton Fils Jésus. Merci Seigneur pour ce don gratuit, ce don complet qui devient le nôtre. Ta vie devient la nôtre lorsqu'on abandonne notre propre vie. Tu es tout puissant, nous nous confions en toi, nous nous donnons à toi pour que tu puisses être glorifié aussi au travers de nous, dans ces jours parmi nos concitoyens et pour l'avancement de ton royaume. Amen.
Amen.
Thank you.